cours d'économie.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Écho d'économie sur Radio Capi. L'asphyxie économique se profile à l'horizon pour la ville de Goma et la cité de Sake dans le Nord Kivu, désormais coupée de toutes les voies d'approvisionnement en vivres et autres. Les rebelles du M23 occupent désormais cette partie, en plus de la partie nord perdue depuis plusieurs mois auparavant. Écho d'économie et reçoit pour vous ce soir le point focal national de l'UNICEF en charge de l'entrepreneuriat. Il va nous parler du programme Génération sans limite mis en place par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour aider les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat justement. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons Côte d'économie par le Nord Kivu et dans la ville de Goma et la cité de Sake qui sont à ce jour presque entièrement coupées des trois axes routiers, principales voies d'approvisionnement agricole qui les relient à l'ensemble du territoire de Masisi. C'est aussi par ces axes que Goma est alimentée en produits vivriers. Toutes les routes sont totalement occupées par les rebelles du M23 à ce jour. Conséquence, la capitale provinciale du Nord Kivu redoute l'asphyxie économique, puisqu'étant déjà coupé de la partie nord depuis plusieurs mois maintenant. Denise Lukeso.
Les trois axes presque entièrement coupés par les M23 sont notamment Sake Kiloliroui Kichanga Mouisso, Sake Mushaki Masisi Centre et Sake Karubangungu. Ces différents axes des dessertes agricoles approvisionnaient Goma et d'autres entités de la province en produits vivriers. C'est entre autres en haricots, pommes de terre, bananes plantains, maïs, de la viande de bœuf et divers produits laitiers, voire des planches et autres en provenance de Pinga. Les seuls axes dont l'accès devient aussi difficile à ce jour dans cette région reste l'axe Sake-Chachaminova sur la nationale numéro 2. D'ici proviennent les légumes, les bananes frais et les fruits. Seulement voilà, cet axe est aujourd'hui menacé par les mêmes rebelles et le combat s'y déroule depuis le week-end dernier autour de Chacha. Une fois les trafics coupés, la ville de Goma risque d'être totalement isolée de Masisi. Par conséquent, elle ne sera plus approvisionnée en produits vivriers provenant de Masisi. Tout comme le territoire de Masisi deviendra un territoire totalement et complètement occupé par les rebelles. Les quelques transporteurs courageux qui accèdent dans cette région occupée disent être soumis au paiement des taxes illégales exorbitantes allant jusqu'à $520 américains par camion chargé par passage. Ils parlent d'un calvaire sans précédent. Goma, Denise Lukeso, Radio Capi.
Le Conseil congolais de la batterie s'engage à promouvoir l'innovation dans le secteur des batteries électriques et assurer l'approvisionnement en matières premières aux industriels du secteur dans la fabrication des batteries électriques en République démocratique du Congo. Le directeur général du Conseil congolais de la batterie l'a dit ce lundi à Kinshasa. C'était au cours de la conférence de presse pour présenter la vision et lancer la première étude de faisabilité de ce conseil sous le thème « La chaîne de valeur en marche ». Directeur général du Conseil congolais de la batterie, Denis Le Courtier, salue les avantages liés à la marche de cette chaîne de valeur en RDC. Pendant ce temps, à Uvira, dans le sud Kivu, le business du carburant se porte très bien à la frontière de Kamvivira avec le Burundi. La pénurie des produits pétroliers observée depuis une semaine maintenant au Burundi voisin offre une belle opportunité aux petits commerçants transfrontaliers congolais. Ils se disent satisfaits de cette activité et saluent la collaboration avec le service frontalier. La bousculade des transporteurs et les longues files d'attente des véhicules autour des stations-service au Burundi font que certains Burundais traversent la frontière avec leurs véhicules pour se ravitailler du côté congolais à Kamvivira. Fiston Goma pour le reportage.
Angélique Ndamuso Kindja exerce son petit commerce depuis une année ici à la zone neutre à la frontière de Kamvivira. Âgée de 59 ans, cette dame bataille chaque jour en vendant de l'huile végétale et du sucre pour nourrir ses 12 enfants. Depuis que le carburant se fait rare du côté du Burundi, elle a choisi d'émigrer vers ses commerces très fructueux ces jours-ci. Nous l'avons retrouvée ici à Kamvivira, un bidon de 20 litres d'essence à la main, en train de négocier le prix de vente avec les ressortissants burundais.
La vente de carburant ici à la frontière, ça se passe en calme. J'ai l'habitude de faire le commerce ici. Je vends du sucre et de l'huile au qui. Je gagne quelques paix pour manger seulement. Les Burundais viennent, ils payent, ils nous donnent de l'argent. Nous gagnons un paix, un tout petit paix pour payer seulement à manger le soir. Et puis, ils retournent chez eux.
Ce business prend de l'ampleur, surtout pendant le week-end. des Burundais traversent avec leurs véhicules pour acheter ces combustibles auprès des détaillants. Un ressortissant burundais conducteur d'une Jeep ne veut pas évoquer la rareté, ni la bousculade, ni même des files d'attente des véhicules devant les stations d'essence pourtant réelles ces jours-ci, d'après plusieurs témoignages à Bujumbura. Pour l'instant, aucun problème ne se pose dans ces commerces transfrontaliers. Certains agents des services frontaliers saluent l'interdépendance économique entre les deux pays.
La corruption est un fléau à combattre parce qu'elle constitue un frein au développement des nations. C'est la déclaration de UN Global Compact, l'initiative des Nations Unies créée à l'an 2000 et qui regroupe plusieurs entreprises du secteur privé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée samedi 9 décembre. Écoutons Célestin Moukeba, membre du conseil d'administration et président de la commission de la lutte anticorruption au micro de Paul Matendo.
Comme on l'a soulevé dans plusieurs rapports, que ce soit les Transparency International, le deux tiers des pays qui ont été évalués dans le cadre de cet indice sont en deçà de 50%. Et la quasi-majorité, si la moyenne mondiale se situe autour de 43%, les pays de l'Afrique subsaharienne sont autour de 32%. Donc il y a des efforts qui doivent être consentis mondialement pour que nous puissions lutter contre ce fléau. Pour quelles raisons doit-on lutter contre ce fléau? Parce que premièrement, je l'ai dit, c'est un frein au développement. Il a été évalué quand même que les efforts pour lutter contre la pauvreté mondiale correspondent quasi exactement à l'argent ou au flux de fonds qui vont dans la corruption. Donc si aujourd'hui on veut résoudre le problème de la pauvreté mondiale ou de la faim même, qui se trouve être les objectifs des ODD, on doit simplement boucher le trou sur la corruption.
Écho d'économie.
Génération sans limite, c'est le programme de l'UNICEF pour aider les jeunes à réussir notamment grâce à l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre qu'un module de formation gratuite sur l'entrepreneuriat est proposé aux jeunes avec un encadrement plus poussé pour ceux dont les projets se démarquent des autres. Pour en parler, Écho d'économie et reçoit Serge Wingui, point focal national entrepreneurial des jeunes à l'UNICEF. Il répond aux questions de Cynthia Bachizi et c'est lui l'invité de l'économie.
Serge Wingui, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF a décidé de se lancer sur un terrain, on n'a pas l'habitude de l'entendre, c'est celui de la promotion, l'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a motivé l'UNICEF à se lancer dans cette sphère d'activité?
En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2018, donc dans le cadre de ce programme Génération sans limite, Gen U, et avec ces quatre composants, donc UNICEF était déjà présent, c'est dans le volet entrepreneuriat, qui a quand même une certaine particularité qui s'ajoute, accès à l'emploi. En RDC, il y a une cassure entre la demande d'emploi et la disponibilité d'emploi. Et donc, dans un contexte comme celui-là, il serait illusoire de continuer à former des demandeurs d'emploi. Donc, on est passé par une initiation à l'entrepreneuriat pour donner goût aux jeunes par rapport à cette filière. Donc, c'était par la téléphonie mobile qui a permis à ce que près de 400 000 jeunes à l'espace de 8 à 9 mois, qu'ils soient initiés à l'entrepreneuriat avec une série de 12 leçons, avec après chaque leçon un test à passer et autres.
Donc le jeune qui reçoit ces cours-là à travers la téléphonie mobile, c'est le 42-502. Une fois qu'il termine ce cursus-là, comment l'UNICEF s'y prend pour pouvoir le sélectionner et l'amener peut-être à une étape supérieure dans sa fibre entrepreneuriale?
Dès que on est intéressé par l'entrepreneuriat, et donc la prochaine phase, c'est des interactions en présentiel. Il y a des clubs, des jeunes qui ont été mis en place dans beaucoup de villes. Et là-bas, les jeunes intéressés vont interagir avec d'autres acteurs un peu plus rodés, d'autres jeunes comme eux, pour voir comment commencer à donner forme à leur idée de départ. Alors, dès que l'idée commence à prendre forme, ils sont en interaction avec des incubateurs. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, tous les incubateurs devraient être certifiés par le ministère de l'Entrepreneuriat pour qu'on passe d'une idée entrepreneuriale à un projet entrepreneurial. Et donc, vraiment, ça prend forme, on voit juridiquement à quoi ça doit ressembler. Le jeune entrepreneur est appelé à élaborer un business plan. Parce que pour interagir avec les autres acteurs qui sont dans l'écosystème, le langage qui correspond, c'est le business plan. Et vous n'irez pas à une banque solliciter un financement si vous n'avez pas un business plan. Et à l'issue de l'accompagnement, de la première phase de l'accompagnement, Il y a une première cohorte de 30 jeunes venant d'un peu partout qu'on a regroupés ici à Kinshasa pour un échange et une préparation à la prochaine étape d'accompagnement.
Ce sont des jeunes qui se distinguent par quoi ? On peut avoir une idée de leurs projets qui sont porteurs aujourd'hui ?
Voilà, je peux prendre l'exemple d'un des jeunes avec qui j'ai échangé même ce matin. Il est de Goma. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'accidents de circulation dans la ville. Et il était même victime parce qu'un de ses proches parents est décédé suite à un accident. Alors ça l'a amené à penser à une application qui permet aux policiers de roulage et aux différents services qui sont dans la régulation de la circulation de pouvoir constituer une base de données avec un gadget qui est placé sur certains carrefours. Rien qu'à partir des plaques d'immatriculation, on sait directement à partir d'une tablette avoir toutes les données du véhicule qui est en circulation. Il y en a d'autres qui sont par exemple dans le traitement de l'eau. Ils sont dans des milieux où on ne sait pas toujours forer parce que les équipements ne sont pas toujours à leur portée. Il est étudiant en chimie, je crois, et il essaie de mettre en place un dispositif qui permettra de recycler l'eau du fleuve sans forcément passer par des forages. Et il y en a d'autres qui sont dans des solutions qui sont dans le digital avec des applications qui leur permettent de repérer sur une ferme, par exemple. On sait avoir, sans prendre des échantillons de terre, ils savent avoir les informations sur la composition en termes de minéraux qu'il y a dans différentes parties d'une ferme. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi impressionné.
Nous avons rencontré beaucoup d'entrepreneurs et l'une des préoccupations majeures qui se dégage, c'est la difficulté de l'accès au financement. Est-ce que l'UNICEF intervient aussi sur ce terrain-là pour aider un peu les jeunes à pouvoir contourner cette difficulté d'accès au financement ?
Un entrepreneur, pour qu'il se développe, il n'a pas seulement besoin de financement. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le développement d'un projet entrepreneurial. UNICEF a une valeur ajoutée, par exemple, dans l'éducation, bien dans l'accompagnement des jeunes qui veulent s'initier à l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas son mandat de financer les entreprises. Il y a des acteurs, des partenaires qui sont là dans ce domaine. Vous avez le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, qui est là justement pour servir des garanties et tout ça. Vous avez pas d'PME qui est appuyé par la Banque mondiale et tout ça.
Je vous remercie.
Merci Serge Wingi, merci Cynthia Bachizi et grand merci à vous chers auditeurs. Écho d'économie se referme, mais il est à réécouter au plaisir et à continuer sur radiocapi.net.